Scrivens O, Scrivens A.
Cette émission se propose d'explorer les mystères de la création littéraire et poétique, en commençant tout d'abord par enquêter sur ce qui se trame dans les ateliers d'écriture marseillais. Comme annoncé dans la précédente émission, abordons aujourd'hui le roman choral, un atelier atypique de la plume et l'image, animé par Christine de la Souchère. Philippe Nicou, de son côté, interviendra en tant que participant.
Bonjour Christine, merci de me recevoir. Et avant toute chose, puisque tu es animatrice d'atelier d'écriture, je voulais savoir depuis combien de temps tu pratiquais cet exercice.
Alors bonjour Marie, très heureuse de te recevoir pour répondre à tes questions. Alors j'anime les ateliers d'écriture à la plume et l'image depuis 2018.
Scribette.
Voilà, donc j'ai préparé le DU, donc j'ai la formation du DU d'animateur d'ateliers d'écriture à la fac, à l'université d'Aix-Marseille. Et donc j'ai obtenu mon diplôme en 2017 et très rapidement on m'a proposé d'animer à la plume et l'image.
Et qu'est-ce qui t'a amené, poussé à mener une telle formation en fait?
Oui, alors déjà l'écriture a beaucoup compté pour moi depuis mon enfance. Donc j'ai tenu un journal à partir de 10 ans, un journal intime à partir de 10 ans que j'ai poursuivi pendant des années. Donc j'ai des rayonnages de journaux intimes. Ensuite, j'ai une formation donc de lettres modernes et j'ai enseigné de nombreuses années les lettres modernes dans différents établissements.
Ok.
Scribens.
Oui, c'est la question qui est venue en fait. Si tu avais une profession préalable en rapport avec la littérature et tu viens me donner.
Oh, oui, tout à fait.
La réponse, je me demandais ce qui t'animait en tant qu'animatrice d'atelier. Mm-hmm. Est-ce qui continuait de t'animer?
Oui, alors déjà la position de passeuse, à faire passer. En tant qu'enseignante, je l'ai eue déjà. Donc l'expérience nouvelle, c'est de passer auprès d'adultes. Donc c'est un tout autre public, puisque dans les établissements où j'ai enseigné les lettres modernes, c'était un public qu'on appelle contraint, c'est-à-dire qui n'avait pas choisi de faire du français, des maths, etc. Mais c'était une obligation pour eux en tant que collégiens ou lycéens. Et à présent, donc, il s'agit d'un public adulte et volontaire. Donc s'ils viennent, c'est parce qu'ils en ont le désir et en plus, ils paient leur atelier. Voilà, donc c'est un public volontaire. Et en fait, ce qui m'a plu, donc je dis, c'est le fait de passer des connaissances, c'est le fait aussi de passer aussi une façon d'animer et de faire rencontrer des gens autour de l'écriture. Et donc c'est cette dynamique qui fait que, eh bien, on écrit en groupe. À partir de consignes, donc de choses qui sont extérieures au désir a priori de la personne, et on écrit ensemble des textes qu'on n'aurait pas du tout écrits seul, et on aurait pu se retrouver tout seul devant sa page blanche et ne rien produire, alors que dans un atelier, eh bien, il y a une production, une stimulation par rapport au groupe.
Scribent.
C'est vraiment ce qui me plaît, ce qui se passe entre les humains dans un groupe.
Alors on en vient enfin au musique chorale,
oui.
Qui est ta particularité et qui fait tout l'intérêt de cette émission. Comment en es-tu venue à réfléchir à ce type de concept? Est-ce que tu avais des références? Est-ce que ça existe déjà?
Alors, je pense que ça existe. Jean-Paul a déjà créé un atelier de récit choral, donc peut-être lui pourrait t'en parler pour te dire comment il a travaillé autour de cela. Je n'ai pas fait de recherche pour savoir s'il y avait déjà d'autres ateliers. Disons que J'ai commencé à animer des ateliers d'écriture à la Plume et l'Image pratiquement dès mes premiers essais d'animatrice dans cette association. Et donc, j'ai proposé des ateliers autour de l'écriture de la nouvelle pendant au moins 3 saisons. Et puis, ça m'est apparu un petit peu comme une évidence pour moi, le récit choral ou polyphonique. Hein. Parce que ce qui me plaît dans les ateliers, c'est d'introduire une dimension ludique aussi. Ludique, mais pas que ludique. Hein. C'est-à-dire que partir dans un récit polyphonique, donc il s'agit, donc je vais dire ce que c'est, hein, un récit polyphonique, il s'agit d'écrire un texte intégral à partir d'un scénario, mais chaque participant va endosser un personnage. Et le personnage est tiré au sort lors de la première séance, la première sur 6 séances. Je ne sais plus ce que je voulais dire après.
Parfois, en effet, il est difficile de définir de façon synthétique un exercice intellectuel aussi spécifique que l'on pratique depuis plusieurs années. Philippe Nicou, participant, on l'a dit, nous fournit donc les grandes lignes qui constituent un récit choral ou roman polyphonique.
Alors, de ton point de vue en tant que participant, comment tu définirais le récit choral et comment ça fonctionne ?
Donc, le récit choral, c'est par définition, c'est un récit à plusieurs voix, hein, c'est polyphonique. Donc, l'idée, c'est que l'animateur ou l'animatrice apporte un thème qu'il a soigneusement choisi parce qu'il est riche, etc., et travaillé. Et donc, en fonction de ce thème, il propose des personnages. C'est comme ça que Christine travaille. Et donc, chaque adhérent, chaque participant reçoit 2 ou 3 personnages. Alors, elle tire au sort, en plus, parce que pour mettre de la vie, justement, pour pas que ce soit trop un tel, oui, on le voit bien, c'est tel personnage.
Non,
il faut frotter à la vie et au hasard. Et donc, ces personnages, à chaque séance, on doit produire une séquence du récit final. Chaque participant doit faire parler, agir ses personnages dans une séquence donnée. Par exemple, à un moment, c'était un road movie et il y avait qu'est-ce qui leur arrive entre telle étape et telle étape. Ces trois-là, dans telle voiture, qu'est-ce qui peut leur arriver, voilà. Et bien, allez-y, débrouillez-vous. Et la difficulté, c'est ça tout l'art de la chose, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un fil directeur pour arriver, pour donner un sens, bien sûr, et que ce fil directeur doit être à la fois structuré, précis, pour que justement il n'y ait pas de couac. Et voilà, donc par exemple, actuellement, nous, on a l'enterrement de Serge, donc le fil directeur, c'est un enterrement. Donc on a des personnages précis, et ils vont vivre une série de petites étapes. D'accord, il y a la cérémonie à l'église, il y a l'arrivée au cimetière, et puis après, je ne sais pas, puisque c'est la surprise. Et voilà, et chacun va devoir inventer les relations qui peuvent exister entre les personnages ou comment ils réagissent par rapport à l'action de la séance. Et l'originalité, c'est qu'on n'écrit pas dans cet atelier, on écrit chez soi.
Scribens.
Donc on a 10 jours pour écrire. Et on arrive avec une proposition qu'on a communiquée par internet aux autres, et c'est du travail à l'envers, comme on dit maintenant en pédagogie, c'est-à-dire que on fait les exercices avant et puis c'est la correction après, quoi. On bosse beaucoup avant et puis finalement après on discute et on voilà sur le résultat du travail qu'on a fait. Et donc on fait un comité de lecture, en clair. Pour moi, c'est ça qui est riche, c'est qu'on a un comité de lecture, c'est-à-dire plusieurs personnes qui ont lu ce que tu as écrit et qui vont te donner leur sensibilité, leur opinion, leur vision des choses, qui n'est pas forcément la même pour chacun des participants. Et du coup, ça restimule l'écrivain parce qu'il se dit « Ah oui, j'avais pas pensé à ça », ou « Ça, oui, non, il a raison, ça va pas », ou « Ça, il me dit ça, mais j'en tiens pas compte parce que je reste sur ma position. Et on s'enrichit comme ça et on avance. Et on se met d'accord s'il y a des petits couacs sur... voilà. C'est ça, pour, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais...
Si, merci pour cette définition.
Je t'en prie.
Le tirage au sort, le frottement à la vie, comme le dit Philippe, le jeu, aspect de l'exercice du roman choral qui plaît tant.
Que je voulais quelque chose plutôt ludique, hein, que c'est ce côté ludique qui m'intéressait dans le récit polyphonique.
Hein. Effectivement, puisque j'ai assisté à une séance, mais d'avoir eu surtout sur la fin un côté passionnant, type Cluedo.
Oui, alors est-ce que tu pourrais me dire davantage pour que je puisse enchaîner sur ton impression ?
Eh bien, oui, vraiment ce côté de plus en plus c'est allé crescendo, les gens se sont mis à imaginer, surtout sur la fin, quand il y a des questions, de se dire la prochaine fois qu'est-ce qui va se passer, où en est-on ? Toi tu as le schéma narratif en main,
oui,
tu donnes quelques indices.
Oui, oui.
Et
Scribens.
Là, j'ai senti vraiment que les personnes qui étaient présentes étaient presque en ébullition. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ?
Alors,
avec toutes les contraintes.
En fait, un récit polyphonique demande un cadre strict. Hein, étant donné que chaque participant ne peut pas avoir la liberté qu'il pourrait avoir lorsqu'il écrit un texte tout seul. Là, il s'agit d'écrire ensemble et à partir d'un même scénario avec des personnages qui peuvent interférer aussi. Hein. Donc, je ne peux pas faire trop... De rencontres entre les personnages, parce que souvent ça serait trop compliqué. Mais en tous les cas, dans ce récit choral auquel tu as participé, il y a quelques lieux où les personnages vont être tous en présence. Donc il y a besoin de beaucoup de rigueur pour qu'on soit d'accord sur le cadre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme meuble, qu'est-ce qu'il y a, quelle ambiance.
Un même schéma narratif, un même scénario, mais quel est-il ? Quels sont-ils ? Sur quelle base repose-t-il ? Vient le temps d'en dire un peu plus sur le roman lui-même polyphonique de Stéphane Carlier, intitulé « L'enterrement de Serge ». Cet enterrement-là vous rendra heureux. Dans une petite église de Saône-et-Loire, on enterre Serge Blandeau, et ils ne sont pas nombreux à avoir fait le déplacement. Il y a Gilberte, sa mère, qui s'apprête à faire une annonce importante. Brigitte, sa sœur, qui compte les heures avant son retour en région parisienne. Bertrand, son beau-frère, qui aimerait récupérer les 400 francs qu'il a prêtés aux défunts en 1998. Et une poignée d'autres. Il faut dire que Serge n'avait rien d'inspirant. Un homme qui habite un mobilhome et gagne sa vie en conduisant le minibus d'un EHPAD ne peut pas espérer des obsèques grandioses. Celles-ci seront pourtant inoubliables.
Debout devant l'église Saint-Sébastien, une bonne douzaine de personnes attendaient dans un silence patient. Une rare automobile passait de temps à autre dans la rue qui longe la place. L'atmosphère était aux vêtements sombres, au recueillement, à la résignation morne ou à l'impatience discrète, c'était selon. Un glas lent, têtu, et un ciel gris légèrement pluvieux achevaient de plomber l'ambiance qui n'en avait guère besoin pourtant. Le fourgon Mercedes couleur funéraire arriva dans un ralenti à la dignité étudiée. Il s'immobilisa pile poil devant les marches qui menaient au parvis de l'église. « Putain, il y a des marches !» s'exclama Jean-Pierre, le maître de cérémonie, avec la verdeur bien connue de son langage. Romain, conseiller funéraire chez Funéforma au Creusot, ne moufta pas. Il était en période d'essai, il se tenait à carreau. Juste le jour de grève, bordel! Et Didier et Momo n'ont pas pu venir. Va falloir se le monter à deux le macabre. Pourquoi faut toujours que ça tombe sur moi, nom de Dieu? Insista le gros, qui avait une petite tendance au sentiment de persécution. Précisons que Romain appelait son maître de stage funéraire le gros, mais seulement dans son fort intérieur, bien sûr, retenue, discrétion, empathie, comme préconisait Monsieur Format, le patron, avec regard intense et sourcils froncés, le tout sous-tendu d'un index pointé. Il faut reconnaître que Jean-Pierre n'était pas du genre petit gabarit. De hauteur moyenne, il se rattrapait dans la largeur, ce qui, dans l'ensemble, lui conférait un petit air de tonneau. Il faut ajouter qu'il ne donnait pas dans la délicatesse nutritionnelle. La nourriture bio, le sans gluten, la traque au sucre et à l'huile de palme, il n'en avait jamais entendu parler, ou alors si, peut-être, mais de très loin, et il y avait très longtemps. Lui, c'était plutôt tripes et andouillettes accompagnées de frites et d'une bouteille de Mâcon, café et petit pouce après, à l'occasion. Pour les creux dans la journée, donuts et bière, et le matin, de temps à autre, petit blanc limé. Rien qu'à ces évocations, l'estomac de Romain se retournait. Lui penchait plutôt vers le jus de légumes, lait de soja, tofu, boulgour, quinoa et graines d'un peu tous les coins du monde, bien qu'il nourrit une petite mauvaise conscience sur son bilan carbone du coup. Le temps de ces considérations culinaires sur nos deux travailleurs funéraires, il faut bien mettre un peu de chair sur les personnages, Jean-Pierre avait recouvré son calme. Il ouvrit sa portière d'un geste retenu, sortit du véhicule sur un mode pneumatique, salua l'assistance avec réserve et componction, s'approcha de la compagne du défunt. Elle s'appelait Madame Zanella, il avait révisé avant de partir. Il lui murmura quelques mots sur le déroulement des choses. Il fit le tour du break, déverrouilla le haillon arrière avec douceur et adressa un hochement de tête au genou. Jean-Pierre n'appelait Romain que Genou ou le Bleu. Il ne se privait pas de l'interpeller ainsi haut et fort en public, histoire de bien fixer la hiérarchie. Chaque fois que le Bleu lui tombait sous l'œil, son regard prenait, sans qu'il en fût conscient, un air résigné et vaguement douloureux. Ce grand échalas, ce teint de chou-fleur bouilli, rien dans les muscles, forcément végétarien ou thalien, il s'y perdait dans ses conneries. Dans une économie de gestes remarquablement rodés, les deux croque-morts déplièrent un chariot et l'installèrent en haut des marches devant l'entrée de l'église. Ils redescendirent en silence et au signal de Jean-Pierre, ils s'emparèrent du cercueil, le firent glisser hors du véhicule, puis le hissèrent tant bien que mal sur leur épaule. « Putain, n'est pas léger le défunt !» maugréa Jean-Pierre, mais en se retenant, fallait faire gaffe, il y avait de l'assistance tout près. Après un moment de fort roulis, agrémenté d'un certain tangage, force 4 ou 5, estima Romain, qui pratiquait la voile durant ses congés, chancelant sous le poids, ils grimpèrent les marches montant au porche de l'église. Allongé dans son cercueil, Serge entendit l'ouverture du haillon, supposa-t-il. Il se sentit glisser à l'horizontale, ok, très bien, logique, on le sortait du véhicule. Nul brin d'air, nul vent coulis ne vint caresser sa peau, normal, il était mort et bien enfermé dans sa boîte. Cela se gâta juste après. Il fut soulevé, agité dans tous les sens, carrément en vrac pendant un moment qui lui parut une éternité. Enfin, façon de parler, c'était une minuscule préfiguration de tout le temps qui l'attendait après. Puis retour à une certaine stabilité. Mais c'est l'inclinaison abrupte qui devint inconfortable. La tête nettement plus haut que les pieds. Du coup, il se retrouva plutôt replié, coincé contre la planche du fond, carrément tassé même, disons les choses comme elles sont. Alors, déjà, être mort n'est pas la situation la plus agréable qui soit. Mais ok, d'accord, on ne va pas discuter là-dessus sans s'étendre, c'est la vie, si l'on peut dire. Être enfermé entre quatre planches, enfin six au moins, calcula Serge si l'on compte les deux du bout. Être enfermé entre six planches, donc, est déjà plus ennuyeux. D'autant que Serge avait toujours souffert d'une petite claustrophobie. C'est fou ce qu'on était à l'étroit là-dedans. Heureusement, question respiration, ça allait vu qu'il n'en avait plus besoin de respirer. Du coup, ça lui faisait bizarre. Il ne sentait plus rien, même pas l'odeur du bois qu'il aimait tant. L'obscurité le gênait plus. Par chance, il y avait ce minuscule interstice oublié à la hauteur de son visage et qui laissait passer une bride de lumière. Il faut dire, le cercueil était vraiment basique. Pour l'intérieur, ça allait encore. Des draps de satin, même synthétiques, c'était pas mal du tout finalement. Et le support en dessous était correct, bien qu'un peu mince, on sentait la raideur du bois. Arlette, sa compagne, avait choisi le premier prix forcément. Sapin et poignée en plastique, imitation bronze. Il avait entendu les employés faire des remarques assez désobligeantes après le départ d'Arlette. Il n'avait pas trouvé ça très correct. Il ne lui en voulait pas. Il n'avait pas beaucoup d'économies et une cérémonie de ce genre, même basique, ça te coûte un bras. Enfin, surtout à elle du coup. Elle allait pouvoir en faire des ménages pour rembourser le crédit, la pauvre. Ce qui le tracassait un peu, Serge, c'est cette situation où il se trouvait. Elle était franchement inhabituelle, convenons-en. Mort, il l'était, en principe. Vérifié, contrôlé, certifié, il était réduit à l'immobilité. Allongé dans ses draps de satin, comme à la sieste ou lors d'une grasse matinée, rien à prévoir ni de décision à prendre dans un avenir proche et encore moins éloigné, ça avait un côté peinard au final. Mais l'étonnant, c'était qu'il percevait encore beaucoup de choses, et notamment il entendait tout ce qui se disait autour de lui. Il avait même l'impression d'entendre mieux que de son vivant, et son cerveau semblait en pleine forme lui aussi, et même particulièrement excité, en sur-régime en quelque sorte, ses pensées ne cessaient d'affluer. Un peu à l'image de ces arbres qui, sentant leur fin approcher, se mettent à produire des fleurs ou des fruits en quantité invraisemblable, comme dans un dernier effort de vie et de perpétuation. En définitive, hormis bien entendu la regrettable situation de base, il n'avait pas trop à se plaindre. Cela dit, dans le moment présent, il maugréait. Car Serge a un défaut, vous vous en êtes peut-être rendu compte, c'est un râleur de première. Installé à l'arrière du véhicule, il avait été gêné par la radio de bord. C'était Céline Dion qui trémolait « Pour que tu m'aimes encore ». J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. Il ne savait pas qui était l'auteur, mais il trouvait les paroles. Bon, sans parler de la musique, mais passons, il n'allait pas débiner des ex-collègues. Lui aussi s'était essayé au métier d'auteur-compositeur-interprète dans sa jeunesse, il connaissait les difficultés. À cause de ce fond sonore, il n'avait donc pas bien perçu les échanges verbaux entre les deux employés sur le mouvement de grève. Il n'avait du coup pas saisi toutes les problématiques sur la pénurie subséquente de main-d'œuvre funéraire. Alors, pensait-il, déjà, mourir d'un cancer du poumon n'était pas si agréable, et d'ailleurs Serge n'avait jamais entendu personne s'en féliciter. Mais être secoué comme un sac de pommes de terre après son trépas et avant son repos éternel, là, franchement, il la trouvait saumâtre. Ça manquait carrément de professionnalisme, sans même parler de respect des défunts. S'il l'avait pu, tiens, il aurait soulevé le couvercle du cercueil et il leur aurait dit aux employés ce qu'il en pensait du traitement qu'il lui faisait subir. Puis la situation s'améliora. Il se sentit reposé à l'horizontale sur un élément stable et roulant, un chariot à tous les coups. Après un moment de silence, il perçut une voix suave prononcer ce qu'il comprit être une bénédiction. Serge n'était pas croyant et ne connaissait pas grand-chose au rite chrétien, non plus qu'israélite, mahométan, bouddhiste, et nous en passons. Du coup, ça l'avait surpris quand il avait compris qu'il participait à une cérémonie catholique, et même à la réflexion plus que participait. Il était en position de vedette, de star, en haut de l'affiche dans un sens. À tous les coups, c'était son Arlette qui avait décidé de cette cérémonie. Elle avait toujours été très croyante. Tous les dimanches, elle allait à la messe. Elle se confessait à tout bout de champ. Elle se confessait de quoi, d'ailleurs? Arlette, c'était la bonté sur terre. Elle méritait la béatification, tiens. De quel péché se sentait-elle si coupable qu'elle avait besoin de les laver régulièrement, tous les 15 jours, recta? En fait, Serge en avait une petite idée des péchés d'Arlette, vu qu'il y avait une part de responsabilité, et même plus que réduite, il fallait le reconnaître. Et ça ne lui plaisait pas du tout que sa femme discute de leur vie privée et même carrément intime avec un homme, même porteur de soutane. Surtout porteur de soutane. On sait bien l'attrait trouble qu'exerce ce vêtement et tous les mystères qui lui sont liés sur certaines âmes féminines. Dans quel degré de détail entraient-ils tous les deux lors de ces confessions itératives? Il n'en avait aucune idée. Secret de la confession oblige, Arlette restait muette sur ce point. Mais chaque fois de ces séances, il lui semblait qu'elle ressortait avec les joues rosies et le regard baissé. Il avait même fini par s'interroger sur l'honnêteté du curé. Il était allé voir discrètement un jour de messe depuis le fond de l'église à quoi ressemblait cet homme dans l'exercice de ses fonctions. il en était ressorti rasséréné. Le type avait à peu près le sexe-pile d'une moule, ce qui d'ailleurs est préférable dans ce genre de vocation.
Scribens.
Ces mots, lus par Stéphane, comédien, sont l'œuvre de Philippe, à qui nous redonnons la parole.
Combien de récits chorales avec Christine ?
Je dois être à 5 ou 6e récit choral, 5e au moins.
Qu'est-ce qui te plaît ?
Alors, c'est une forme d'écriture, moi, qui me ravit, parce que je la trouve très moderne, c'est actuel, disons. Ça renouvelle un peu l'écriture. Et puis, ça correspond à une croyance que j'ai, moi, profondément, c'est qu'il n'y a pas d'objectivité dans la réalité, dans la vie. La vie, c'est juste une juxtaposition d'angles et de visions subjectives par les gens. Et la réalité, c'est jamais que la synthèse, ou pas d'ailleurs, de ces visions différentes. Et moi, pour moi, cette écriture, c'est celle qui colle le plus à la vie. Et en même temps, littérairement, c'est très riche parce qu'on peut s'amuser à faire des contrepoints, des variations. Le même objet va être vu de façon très différente par des subjectivités différentes. Et ça, moi, ça me parle, ça me stimule.
Scribens.
Samedi dernier, que tu avais pris plaisir à prendre comme contrepoint l'humour noir,
oui.
Suite à l'enterrement de Serge.
C'est ça, oui. Oui, parce que justement, pour moi, alors ça c'est un autre thème auquel je crois, c'est que pour donner du relief à une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit en peinture, en sculpture ou en littérature, il faut donner du contraste. Et donc, si on a une ambiance dominante, quelque chose comme ça, il faut forcément, pour la mettre en valeur, cette ambiance dominante, il va falloir trouver des contrepoints qui vont, par effet de contraste, donner du relief au thème dominant et en même temps donner du contraste au thème secondaire. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre.
Si, si. Et ça, c'est de par tes lectures ou de par ta pratique de l'écriture que tu as saisi l'importance de jouer des contrepoints ?
C'est à la fois la musique, parce qu'en musique c'est exactement pareil. En sculpture, puisque moi je fais du modelage, donc en sculpture. Et en écriture, pour moi il y a vraiment des choses qui convergent, et c'est une conviction que j'ai acquise en confrontant différents arts, quoi.
Quelques temps plus tard.
Alors bonjour Christine, nous voilà 3 mois après notre première interview. Vous en étiez au début du cycle d'un roman polyphonique. Et là on arrive au terme de ce cycle. Qu'en est-il maintenant ?
Alors c'est un cycle qui s'est très bien déroulé avec un groupe de participants très impliqués. Et d'autant plus un groupe qui s'est donc parfaitement entendu aussi par rapport à l'initiative qu'ils ont prise de créer un groupe WhatsApp. Donc la possibilité de communiquer très rapidement en dehors de l'atelier à partir des productions de leurs textes pour voir s'ils étaient cohérents entre eux.
Donc cohérents en matière de contenu ? Et en matière de style ?
Oui, en matière surtout de contenu, parce que effectivement chacun pouvait avoir une écriture singulière à l'intérieur de ce projet.
Bon, c'est ton cinquième
Oui, c'est mon cinquième. C'est ma cinquième expérience de roman polyphonique.
Et qu'est-ce qu'on peut dire ?
C'est un travail participatif, c'est-à-dire que ça permet au groupe de sortir d'une certaine solitude et d'une écriture individuelle et personnelle et d'avoir un projet de groupe et d'échange. Donc c'est vraiment un enrichissement autour de l'écriture, de l'écoute, du partage et d'une cohésion aussi à l'intérieur de cet espace-là.
Tu voulais rajouter par rapport à notre dernier entretien, oui. Certaines choses, nous éclairer Je te laisse la parole.
Oui, alors par rapport à ce projet de roman choral ou polyphonique, c'est-à-dire qu'à la base, évidemment, quand je prépare mon projet, j'utilise comme trame et comme scénario de base déjà un roman polyphonique, avec des personnages et des points de vue différents.
D'accord. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de l'enterrement de Serge. Quel était le synopsis, ce que tu as dit aux participants ?
Voilà, donc on est parti avec effectivement l'énoncé du scénario. Donc il s'agit d'un enterrement, qui devait se passer de 11h du matin jusqu'à 17h le soir. Et il y a un contexte, ça se passe en 2019, et ce contexte de grève, c'est un contexte de grève autour de la réforme pour la retraite. Donc tout ne se passera pas comme prévu et la durée de cet enterrement se prolongera sur 2 journées. Effectivement, le premier jour il pleut très fort, il y a la grève, le convoi arrive au cimetière qui est un petit cimetière choisi par la maman parce que c'est un cimetière particulièrement joli, pittoresque et paisible, et il se situe à un certain nombre de kilomètres du Creusot, donc lieu de vie de la famille. Et donc quand le convoi va arriver devant le cimetière, eh bien, la grille sera fermée, les fossoyeurs font grève. Donc nécessité de trouver un logement sur place et de prévoir donc un moment d'enterrement plus tardif, c'est-à-dire le lendemain.
D'accord.
Donc ça a été donné au départ, avec aussi de façon assez précise des fiches sur les personnages. Donc le début est assez proche du roman polyphonique de Stéphane Carrier pour que chacun puisse incarner les personnages et s'accorder les uns aux autres. Donc le scénario est assez près au départ de ce roman, mais au bout de la deuxième séance d'écriture, ensuite ça va être vraiment donné aux participants d'imaginer des situations et surtout la fin de ce récit.
D'accord. Y a-t-il une véritable différence entre le roman initial que tu as choisi en termes de ton, en termes de contenu, ou finalement la cohérence du roman écrit à plusieurs mains ressemble de plus ou moins près à l'enterrement de Serge de Philippe Carlier?
Oui, effectivement, ça peut être assez proche puisque je donne le départ, le scénario, les personnages. Ce qui va s'éloigner, c'est évidemment le choix de la fin de l'histoire. Certaines situations aussi qui sont différentes du roman. D'autres choix qui ont été par hasard proches du roman polyphonique par exemple, ce qui concerne la maman du décédé. Donc, la participante a choisi une raison de la réunion qu'elle voulait faire à l'issue de cet enterrement pour faire une annonce. C'est assez proche du roman, mais c'est aussi un hasard ou peut-être une cohérence par rapport à ce que j'avais donné au départ, par rapport à la fiche des personnages.
Et Philippe, que nous avons interviewé, était parti sur quelque chose, il travaillait beaucoup sur le contrepoint, l'humour noir. A-t-il suivi ce même cheminement ?
Tout à fait. Donc il a tenu cette distance d'écriture et donc une tonalité assez d'humour noir qui donne beaucoup de relief et d'intérêt qui participe à l'intérêt de ce récit. Et effectivement, il a choisi de donner encore un peu de vie à cet homme décédé, c'est-à-dire nous, lecteurs, participer à son dialogue intérieur et à tout ce qu'il vit de l'intérieur de cet espace confiné, jusqu'au moment où, petit à petit, il va accepter de lâcher prise avec la vie et de partir. Et de laisser donc cet événement se terminer autour de la famille. Et
merci pour ce complément d'information. Vois-tu autre chose à rajouter ?
Alors je pourrais dire que c'est ma cinquième expérience de récit polyphonique. Chaque fois, c'est une expérience nouvelle avec des personnalités différentes. C'est toujours extrêmement intéressant. Ce qui se passe dans l'imagination, comment chacun peut créer un univers et en même temps en tenant compte de l'écriture des autres et du scénario commun à tous. Donc c'est très intéressant. Et de voir aussi la tonalité du groupe, hein, c'est-à-dire comme si c'était chaque fois une nouvelle personne qui produise ce récit commun. Donc cette fois-ci, ben, la particularité, donc, c'est l'utilisation de WhatsApp, qui me semble être un outil qui leur a permis de rester en contact les uns aux autres, et aussi d'être stimulés. Il y a eu une dynamique, je pense, en partie grâce à cet outil.
Est-ce que c'est un outil, du coup, que tu vas proposer systématiquement à l'avenir ?
Je pense que ce qui était intéressant, c'est que c'est eux qui l'ont imaginé. Voilà, mais c'est vrai que si ça n'est pas, si ça se présente pour d'autres groupes qui n'y pensent pas, pourquoi pas.
Là, vous êtes à la toute fin, vous allez faire une petite fête pour le cycle avec le bouquin publié.
Oui, absolument.
Relié.
Oui.
Et quel va être cet avenir pour cet ouvrage selon les participants ?
Alors, cette publication à 12 exemplaires a été aussi l'idée du groupe, des participants. Il y a une personne qui s'en est occupée particulièrement, c'est Cécile, qui a mis en page, qui a envoyé à l'éditeur. Et donc, on aura cet objet livre le jour de notre dernière séance, le 1er juillet. Après la question, c'était j'ai perdu le film.
Non, il n'y avait pas d'autre question, si ce n'est qu'allait-il devenir, j'imagine, offert à des proches.
Voilà, c'est ça.
Et quand tu disais éditeur, c'est bien sûr une imprimerie.
Oui.
Il ne s'agit pas forcément d'un éditeur qui accepterait de publier avec pignon, donnant pignon sur rue à ce roman.
Bien
Mais
sûr.
Pourquoi pas ?
Bien sûr. Alors, effectivement, ce sont 12 exemplaires qui vont être dispatchés dans les familles, les amis, et qui vont être aussi une marque d'une totalité, d'une écriture totale, et qui marque aussi le fait de leur que ce groupe a été particulièrement bien soudé et que cette unité eh bien, a produit cet objet livre qui représente leur tout leur travail, et aussi le fait que ce travail a été joyeux et que c'est en fait ce projet est un hymne à la vie, hein, puisque cet enterrement amène tous ces personnages à se retrouver et aussi à évoluer à l'intérieur de leurs problématiques. Et donc vraiment, même si c'est la fin d'une vie, c'est aussi le départ de nouvelles relations entre les membres de cette famille. Et aussi pour les lecteurs.
Donc ça, c'est bien un disque que tu avais fourni préalablement.
Oui, oui, absolument.
Ouais. Alors, vois-tu autre chose encore à rajouter ? Je pense qu'on a complété ce qui avait été évoqué. Crois-tu que les participants de cet événement, de ce roman polyphonique autour de l'enterrement de Serge, vont revenir pour participer, pour collaborer autour d'un roman polyphonique à l'avenir, c'est tellement tant ça leur aura plu.
Les personnes qui participent à cet atelier, eh bien, il y en a, c'était un groupe de 5 personnes, il y avait déjà 3 personnes qui avaient déjà participé à un autre projet précédent de roman polyphonique. Et effectivement, je pense que c'est un projet qui semble plaire et elle semble avoir un certain succès.
Super. Je te remercie beaucoup, Christine.
Merci, Marie.
Voilà. C'est la fin du 3e épisode consacré à la plume et l'image. Je tiens à remercier pour ce 3e volet Christine de la Souchère, Philippe Nicou, Stéphane Cohen, comédien, Radio Galère et tout particulièrement Patrick Thubeau pour ses propositions musicales depuis le début de la série Scribens au Scribens A. Un clin d'œil à Cédric qui a su trouver le juste ton pour annoncer l'émission ainsi que son jingle Scribens.